Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Romain et je vous souhaite la bienvenue pour votre nouvelle émission Le Fil de l'Actu, un vendredi par mois, le voyage philosophique à travers l'actualité. Et nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour une nouvelle émission que nous allons sans plus tarder commencer avec une voix que vous connaissez bien, que nous connaissons tous.
Je suis engagé dans ma campagne présidentielle, c'est de dire qu'on doit progressivement décaler l'âge de départ légal, obligatoire, jusqu'à 65 ans, mais à un horizon qui n'est pas demain, qui est au milieu des années 2030, en décalant de 4 mois par an. Bon. Ce qui veut dire qu'on faisait d'ici à la fin du quinquennat un peu moins de 2 ans. Donc, quel est le cœur de la philosophie? Nous devons travailler plus et plus longtemps.
Vous aurez très certainement ici reconnu la voix de notre très cher président Emmanuel Macron. Il s'agit d'un discours prononcé lors du 14 juillet 2022. L'extrait est disponible sur la chaîne YouTube de France 24. Et de quoi parle cet extrait? Il parle donc de cette réforme des retraites qui fait l'actualité en ce moment. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste, comme l'a dit le président, à repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Pourquoi cette réforme fait-elle du bruit? Tout d'abord parce qu'elle marque un profond changement dans le système français et parce que aussi de nombreuses personnes considèrent qu'après 60 ans, il est temps de se reposer et de profiter après de longues années de travail. Et tout ce débat de savoir combien de temps on doit travailler, il implique de s'interroger sur la notion même de travail qui, pour certains, est une source d'épanouissement. On connaît cette phrase que votre tonton vous a déjà sortie en repas de famille, « Le travail, c'est la santé », mais c'est aussi pour beaucoup d'autres une source d'emprisonnement. Le travail, c'est donc un enjeu majeur tant en politique qu'en philosophie, et de nombreux auteurs se sont attachés à philosopher ce concept, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que le travail? Il est difficile de répondre à cette question instinctivement, tant la notion de travail est controversée. La philosophie vient justement essayer de se dénouer de toute conception politique, mais nous allons voir que ce n'est pas toujours le cas. Mais avant de définir ce qu'est le travail, il faut en comprendre le sens, car il y a en effet toute une histoire derrière la notion de travail. Qu'est-ce que le travail à l'origine? Cette question elle peut sembler bête, mais il faut savoir que le travail n'a pas toujours eu le sens qu'on lui donne aujourd'hui au quotidien. En effet, le travail à l'origine, c'est l'accouchement de la femme. On parlait autrefois d'une femme au travail. On trouve donc ici un point commun, en quelque sorte, quelle que soit l'interprétation du mot « travail » dans le temps, c'est la notion d'effort. Un effort qui peut être tant physique que psychologique. C'est la base du travail et c'est en ce sens que le travail il va se différencier du jeu pour lequel on n'a pas cette impression de devoir faire un effort. Par exemple, il est plus facile de se lever de son lit pour aller jouer aux jeux vidéo ou pour aller lire un livre que pour aller faire ses devoirs. Il ne faut également pas confondre, et là on est dans la distinction, travail et emploi. L'emploi étant le cadre juridique qui vient structurer le travail avec un contrat, un salaire, des horaires. Ainsi, sur le marché du travail, l'offreur, c'est le travailleur, car c'est lui qui vend sa force de travail à l'employeur. Ça, c'est pour les distinctions importantes. Et donc, avec cette notion d'effort, on peut commencer à donner une première définition philosophique du travail. Il s'agit du déploiement d'un effort, donc physique ou intellectuel, dans la réalisation d'une tâche déterminée d'avance. Alors, cette dernière expression de cette définition, une tâche déterminée d'avance, pour bien comprendre, il faut faire un bond de 2 siècles dans le passé pour aller lire Karl Marx, célèbre philosophe et sociologue allemand du 19e siècle. Auteur du Capital, du manifeste du Parti communiste avec Engels, Marx s'est attaché à développer la notion de travail dans ses travaux, et particulièrement le phénomène d'aliénation du travail. Mais revenons d'abord sur cette définition et donc ce que nous dit Karl Marx. Donc, je vous répète les derniers mots de cette définition, la réalisation d'une tâche déterminée d'avance. Marx nous dit qu'en effet, avant d'être réalisé, le travail il se situe quelque part. Il se situe dans l'imagination du travailleur qui, avant de se mettre à la tâche, conçoit ce qu'il doit réaliser dans son esprit. Pour que le travailleur soit satisfait de ce qu'il a produit, intellectuellement ou matériellement, il faut donc que le résultat corresponde avec l'idée qu'il s'en faisait dans son esprit. Et c'est donc à ce moment-là, dans la correspondance entre la projection que l'individu se fait de sa tâche et le travail finalisé, que réside le travail bien fait. Nous en avons terminé avec cette définition du travail, mais continuons avec Karl Marx et parlons désormais de l'aliénation du travail. C'est un sujet très important en philosophie, avec ce fameux débat de savoir si le travail permet à l'homme de se réaliser ou s'il est juste une source d'aliénation. Alors, pour définir ce qu'est l'aliénation, Marx, il part d'abord du contexte historique et du contexte des conditions de vie des ouvriers dans une période de révolution industrielle, avec la naissance aussi du mode de production capitaliste. L'aliénation dans tout ça, ça serait la perte d'humanité au fur et à mesure de la production d'objets. Marx nous dit que l'ouvrier, il perd son humanité en produisant toujours plus à l'usine. Ça renvoie à l'image liée aussi au capitalisme d'un ouvrier, d'un poste par ouvrier plutôt, avec le travail à la chaîne et des conditions de travail absolument catastrophiques, disons-le clairement. Mais alors pourquoi l'ouvrier il perd son humanité dans cette production d'objets ? Tout simplement, nous dit Marx, parce qu'il a le sentiment de ne plus être lui-même et de se transformer en une machine qui doit produire toujours plus pour un salaire misérable avec un rythme infernal. C'est dans Le Capital que Marx définira l'aliénation, pour préciser, comme le processus par lequel on devient étrangère à soi-même. Bien entendu, cette aliénation du travailleur que nous décrit Marx, elle n'est pas dépourvue de toute conception politique, Marx étant communiste, et ça c'est très important de le souligner. Avec ce que je viens de vous dire sur l'aliénation du travail, vous vous dites peut-être que Marx il déteste le travail et qu'il n'en a qu'une vision péjorative. Eh bien non, car Marx part du principe, tout comme Hegel, que l'homme il peut exprimer son essence, c'est-à-dire que Marx pense que l'homme peut exprimer sa raison d'être, sa raison de vivre dans le travail. Et c'est d'ailleurs ainsi que l'homme va se différencier de l'animal. Marx nous dit que les animaux produisent, mais ils produisent le plus souvent pour leurs propres besoins et avec leur propre corps. Par exemple, l'araignée tisse sa propre toile avec son corps, le castor manie le bois et fait des barrages avec son propre corps, tandis que l'homme, lui, il peut produire avec des outils extérieurs à lui-même, comme un marteau, une scie ou une hache. Et donc ça, c'est pour la distinction homme-animal. Et donc Marx nous dit que l'homme peut exprimer sa raison de vivre dans le travail en théorie. Une autre parenthèse importante est que Marx voit également le travail comme une fin et non comme un moyen. On l'a dit, et on l'a vu, hein, pour Marx, le travail est ce en quoi l'homme manifeste son humanité et c'est comme ça qu'il se différencie de l'animal. C'est le travail qui rend l'homme ce qu'il est. Et c'est pourquoi l'homme continue de travailler même quand ses besoins sont satisfaits. C'est ainsi qu'on peut envisager le travail comme une fin et non comme un moyen. Ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on peut affirmer, et ça c'est propre à Marx, que le travail, comme Marx l'analyse, n'est pas vraiment du travail dans la réalité. Tout ce qu'on a dit sur le fait que le travail permet à l'homme de garder son humanité, de se différencier de l'animal, eh bien Marx ne l'observe pas à son époque. Pour lui, tout ce que font les ouvriers, c'est-à-dire travailler sans relâche pour produire en échange d'un salaire qui leur servira à survivre, eh bien ce n'est pas du travail. Parce que l'ouvrier, en se levant le matin, il ne se dit pas « Oh, je me lève, je vais aller travailler afin d'accomplir mon humanité, mon essence, ma raison de vivre. » Non, il se dit plutôt « Ah, je vais me lever pour aller travailler, pour être payé. » L'homme ne travaille plus à ce moment-là pour se définir. Et c'est à ce moment-là que le travail devient un moyen pour accéder au salaire et non une fin pour rester homme. Et c'est ça le propre du mode de production capitaliste, nous dit Marx, et c'est d'ailleurs ce qu'il va combattre durant toute sa vie dans ses ouvrages. Et il va même aller plus loin que ça. Marx nous dit que l'homme, dans le mode de production capitaliste, il ne travaille pas pour accomplir son humanité, on l'a dit, il travaille pour un salaire. Autrement dit, s'il travaille pour un salaire, c'est qu'il travaille pour vivre, car ce salaire qu'il reçoit, il va lui permettre de se nourrir, de nourrir sa famille, de se loger, etc. L'homme ne travaille donc que pour vivre, et pas pour rester et se définir en tant qu'homme. Il travaille seulement pour rester un être vivant, un simple animal, nous dit Marx. C'est ça qui va faire que l'homme, lorsqu'il travaille, il se sent animal, car il ne travaille que pour survivre et non pour accomplir son humanité. D'où cette citation de Karl Marx, je cite, « On aboutit donc à ce résultat que l'homme, le travailleur, ne se sent agir librement que dans ses fonctions animales, se nourrir, boire, se reproduire, ou encore au plus, dans son habitation, dans la façon de s'habiller, etc. » Au contraire, dans ses fonctions proprement humaines, il se sent animal. Ce qui est animal devient humain, ce qui est humain devient animal. Fin de citation. Ça peut sembler assez paradoxal, hein, cet élément, mais pour Marx, c'est constitutif de l'aliénation du travail et c'est en cela que repose l'originalité de son travail. Je vais maintenant vous lire un extrait tiré du « Travail, salarié et capital ». Donc, c'est un ouvrage de Karl Marx publié en 1849 qui résume un petit peu tout ce qu'on a vu et qui reprend les éléments principaux. Je cite. « La force de travail est donc une marchandise que son possesseur, le salarié, vend au capital. Pourquoi la vend-il ? Pour vivre. Mais la manifestation de la force de travail, le travail, est l'activité vitale propre à l'ouvrier, sa façon à lui de manifester sa vie. Et c'est cette activité vitale qu'il vend à un tiers pour s'assurer les moyens de subsistance nécessaires. Son activité vitale n'est donc pour lui un moyen de pouvoir exister. Il travaille pour vivre, pour lui-même. Le travail n'est pas une partie de sa vie. Il est plutôt un sacrifice de sa vie. C'est une marchandise qu'il a adjugée à un tiers. C'est pourquoi le produit de son activité n'est pas non plus le but de son activité. Ce qu'il produit pour lui-même, ce n'est pas la soie qu'il tisse, ce n'est pas l'or qu'il extrait du puits, ce n'est pas le palais qu'il bâtit. Ce qu'il produit pour lui-même, c'est le salaire. Et la soie, l'or, le palais se réduisent pour lui à une quantité déterminée de moyens de subsistance, peut-être à un tricot de coton, à de la monnaie de billon et à un logement dans une cave. Et l'ouvrier qui, 12 heures durant, tisse, file, perce, tourne, bâtit, manie la pelle, taille la pierre, la transporte, etc., regarde-t-il ces 12 heures de tissage, de filage, de perçage, de travail, autour ou de maçonnerie, de maniement de la pelle ou de taille de la pierre comme une manifestation de sa vie, comme sa vie ? Bien au contraire. La vie commence pour lui ou cesse activité, à table, à l'auberge, au lit. Par contre, les 12 heures de travail n'ont nullement pour lui le sens de tisser, de filer, de percer, etc., mais celui de gagner ce qui lui permet d'aller à table, à l'auberge, au lit. Si le ver à soie tissé pour subvenir à son existence de chenille, il serait un salarié achevé. » Fin de citation. Donc, dans cet extrait du chapitre 1, on retrouve les éléments principaux que nous avons expliqués plus tôt et qui font la force de l'argumentation de Karl Marx. On retrouve l'idée selon laquelle l'ouvrier vend sa force de travail au capitaliste en échange d'un salaire pour vivre et non pour exister et rester homme. Marx dit même que le travail est un sacrifice de la vie de l'ouvrier dans cet extrait. Et c'est sur cet extrait que je vous ai lu que se termine notre aventure avec Marx et l'aliénation du travail. Si vous êtes intéressé, je vous invite à lire ces ouvrages plus en détail. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale avec un extrait que je vous propose d'écouter. Ça s'appelle « Deux pièces ». Il s'agit en l'occurrence de l'opus 18 de 1884, donc on est dans ce contexte de révolution industrielle, et c'est signé Edward McDowell. Je vous propose d'écouter et on se retrouve tout de suite juste après. Thank you. Voilà pour cet extrait donc, de l'opus 18 d'Edward McDowell. Donc après cette pause musicale, et après avoir parlé de Marx et de l'aliénation du travail, intéressons-nous maintenant aux travaux d'une philosophe contemporaine qui a écrit dans la deuxième moitié du XXe siècle des ouvrages comme « La crise de la culture », « Conditions de l'homme moderne » ou encore « Du mensonge à la violence ». Je parle bien entendu d'Hannah Arendt. Pourquoi se pencher sur Hannah Arendt ? Tout simplement parce qu'elle a en quelque sorte une vue d'ensemble sur la majeure partie de l'histoire de la révolution industrielle, contrairement à Marx qui lui est mort en 1883. Hannah Arendt, elle a connu les deux guerres mondiales, l'expansion du capitalisme et le progrès technique qui a émergé avec tout ça. Elle ne manque d'ailleurs pas de souligner dans ses ouvrages que ce progrès technique, il a déshumanisé le travail. On retrouve ici, et ça c'est un point commun, le côté déshumanisant du travail que remarquait déjà Marx un siècle auparavant. Et ce que remarquait Marx s'est accentué après la Première Guerre mondiale avec la naissance de l'organisation scientifique du travail que l'on doit à Frederick Taylor avec la répétition d'un même geste intensif pour l'ouvrier qui doit suivre le rythme des machines. À ce moment-là, ce n'est pas la qualité du travail qui compte, c'est plutôt la quantité d'ailleurs. Et Hannah Arendt, elle se demande bien comment l'homme il peut accomplir son humanité dans de telles conditions. Et c'est justement dans l'accomplissement de l'humanité par le travail qu'Hannah Arendt apporte des éléments supplémentaires. On en a parlé un peu plus tôt avec Marx, l'homme se différencie de l'animal dans la production d'outils extérieurs à lui-même, le marteau, la scie, etc. Hannah Arendt, elle se demande si l'homme, il ne serait pas justement une bête vouée à produire et à consommer, si cela ne fait pas partie de la nature de l'homme. Pour commencer dans son raisonnement, Hannah Arendt, elle suggère d'abord qu'il n'y a pas de vie humaine sans activité, sans création. Mais elle se demande si cela implique concrètement de voir le travail comme l'activité par laquelle l'homme construit son humanité et son essence, sa raison de vivre, comme nous l'avons vu plus tôt. Pour le savoir, il faut faire un retour en antiquité, car cela nous permettra de savoir si c'est avant tout le travail qui rend l'individu humain. Ce qu'on peut constater, c'est que dans l'Antiquité, une des conceptions du bonheur nous disait qu'un homme absorbé sans cesse par des occupations extérieures pense que la vie est courte et donc il redoute la mort. Sauf que ce n'est pas ça être heureux. Être heureux, ça serait se détourner des tâches et de l'activité utile, et donc du travail. C'est à ce moment-là, pas par le travail mais par le loisir et le jeu, que l'homme peut être heureux et donc se sentir humain. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vie contemplative. Et c'est cette vie contemplative qui nous permet de nous positionner dans le monde. On est donc ici très très loin de ce que nous disait Marx comme quoi l'homme pouvait se définir par le travail. Ici, on a plutôt une conception selon laquelle l'homme se définit par une liberté de disposition, par le loisir. Et c'est vrai que c'est plutôt cool de pouvoir se définir, se construire à partir de ses sorties culturelles, de l'art, du sport qu'on pratique. Mais il faut avouer que cette vision de l'Antiquité sur laquelle Hannah Arendt nous propose de nous pencher, elle semble assez propre à cette époque, parce qu'aujourd'hui, le loisir, il nous sert surtout à récupérer du travail, il faut le plus souvent payer pour accéder à nos loisirs. Continuons avec Hannah Arendt et sa conception du travail. Elle se demande aussi pourquoi le travail, il est méprisé. Pourquoi les Grecs de l'Antiquité détestaient le travail. Tout simplement parce qu'à cette époque, le travail était lié à la nécessité et non à la liberté. Le travail était associé à la même nécessité que nous avons en commun avec les animaux. Satisfaire nos besoins primaires. C'est pour ça qu'il y avait des esclaves auxquels on donnait l'ordre de prendre en charge ces tâches pénibles. Puisque les esclaves étaient considérés comme des animaux, c'était à eux de contribuer aux tâches qui rapprochaient l'homme des animaux. On voit bien que la vision moderne d'Hannah Arendt ne fait pas du travail une activité positive. Depuis la naissance de la société de consommation, le travail a une place centrale et il devrait occuper une place moins importante, nous dit Arendt. Elle sépare même travail et politique en se basant sur la célèbre citation d'Aristote « L'homme est un animal politique ». En effet, Hannah Arendt, elle pense avant tout que l'homme et son humanité se manifestent par la politique, par la capacité des hommes à agir de façon concertée. L'humanité de l'homme ne se manifeste pas par le travail, nous dit Hannah Arendt, car il ne contribue pas au bien-vivre, le bien-vivre correspondant à faire de la politique plutôt. Et avec ce que nous avons vu d'Hannah Arendt, nous pouvons voir la vision assez désespérante du travail qu'elle propose. Et je vais maintenant vous lire un extrait, comme je l'avais fait avec Marx, mais cette fois-ci, cet extrait est tiré de l'ouvrage d'Hannah Arendt, et plus précisément du chapitre 3 du livre publié en 1958, « Conditions de l'homme moderne ». Je cite. Le mépris du travail dans la théorie ancienne et sa glorification dans la théorie moderne s'orientent sur l'attitude ou l'activité subjective du travailleur, tantôt se méfiant de son dur effort, tantôt exaltant sa productivité. Le subjectivisme de cette conception est peut-être plus évident dans la distinction entre travail facile et travail pénible. Mais nous avons vu qu'au moins dans le cas de Marx, qui, étant le plus grand théoricien moderne du travail, sert forcément de pierre de touche dans ses discussions. La productivité du travail se mesure aux choses dont le processus vital a besoin pour se reproduire. Elle réside dans le surplus que possède virtuellement l'énergie du travail humain. Elle n'est point dans la qualité ni le caractère des objets produits. De même, le jugement des Grecs, qui estimaient les peintres plus que les sculpteurs, ne se fondait certes pas sur la primauté de la peinture. Il semble que la distinction du travail et de l'œuvre, si constamment négligée par nos théoriciens, si obstinément conservée par le langage, ne soit plus en effet qu'une différence de degré, si l'on ne prend pas en considération le caractère d'objet de ce monde de la chose produite, son emplacement, sa fonction, la durée de son séjour dans le monde. La distinction entre un pain dont la vie moyenne ne dépasse guère une journée et une table qui survit aisément à plusieurs générations humaines est certainement beaucoup plus nette et plus décisive que la différence entre un boulanger et le menuisier. Fin de citation. Alors, j'espère que cet extrait, qui je dois l'avouer est assez difficile, il vous donnera tout de même envie d'aller lire les ouvrages passionnants d'Hannah Arendt. Et maintenant que nous avons vu ces deux visions, donc la première comme quoi l'homme il se définit, il se différencie de l'animal par le travail, et la deuxième comme quoi l'homme se crée par ses loisirs avec Hannah Arendt, il est juste de se demander, et on peut tous le faire là aujourd'hui, maintenant, nous demander ce qui définit le plus l'homme entre le loisir et le travail dans notre société. Je ne vais pas répondre à cette question, je vous laisse y réfléchir et méditer sur cette question. En tout cas, cette question philosophique, philosophée depuis près de deux siècles, elle n'a jamais été autant actuelle avec cette réforme des retraites. Je tiens à dire que pour construire cette émission, je me suis appuyé sur l'ouvrage « La philosophie » de Alain Reynaud, publié en 2006, pour la partie sur Marx. Quant à la partie sur Hannah Arendt, je me suis inspiré de Simone Weil et Hannah Arendt, deux philosophes du travail postmoderne, de Dominique Méda, publié en 2018. C'est sur ces mots que s'achève cette émission. Merci de m'avoir accompagné pour cette première émission et on se dit à la prochaine pour un nouveau fil de l'actu. À bientôt.